C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Barthas.
Tout est va du pied. Dans le premier épisode de cette série de podcasts consacrée à la question de l'authenticité, nous avons établi, semble-t-il, les conditions minimales pour atteindre ou cultiver cette vertu. Pour ceux qui auraient manqué cet épisode, je vous invite à l'écouter sur le site de Radio Barthas. Résumons les enjeux. Pour cultiver l'authenticité, il nous faudrait, en somme, refuser l'adoption de toute forme de posture, voire presque d'occuper notre place sur l'échiquier social. L'authentique véritable laisserait émerger ce qu'il a, pour ainsi dire, au fond de lui, ferait entendre la voix et même le cri qui sort de ses entrailles. Pour cela, il ou elle doit, entre autres, s'émanciper du regard des autres et des contraintes sociales, voire, si l'on peut dire, entrer en acte de résistance et de rébellion. Pour autant, nous l'avons bien noté, il ne s'agit pas d'incarner un anticonformisme de façade, ou de pratiquer une fausse authenticité de spectacle pour se distinguer des autres en appelant son enfant avec un prénom rare comme Odilon plutôt qu'avec un prénom décrié comme Kevin. L'authenticité n'est pas un style de vie, mais un mode d'être. Il est plutôt question de s'affirmer et d'affirmer ses désirs en dépit des autres plutôt que contre eux, c'est-à-dire en cherchant délibérément à s'en distinguer. Presque s'agirait-il, si l'on devait adopter le vocabulaire de Freud, de se débarrasser du « surmoi », c'est-à-dire de vaincre toute forme d'autorité morale intériorisée, autorité qui punit et qui humilie nos aspirations et nos pulsions. L'authenticité peut donc exiger du sujet un sacrifice potentiel, même si ce sacrifice n'est pas toujours nécessaire. Le sacrifice, en somme, de sa fréquentabilité, voire presque de son intégration en société. La figure du philosophe cynique, de Diogène de Sinope jusqu'à l'écrivain Émile Cioran de nos jours, radicalise ce refus de compromission avec la société qui conduit jusqu'à l'ostracisme. Diogène de Sinope, philosophe du 4e siècle avant Jésus-Christ, est quasiment une figure mythique tant on a pu dire qu'il incarnait jusqu'au bout les principes qu'il admettait en théorie. On pourrait dire que le cynisme de Diogène n'admet qu'un seul principe, la nature. Disons même la nature contre la société. Les modes de vie préconisés par Diogène rejettent en effet toute forme de convention et d'artifice moral ou politique au profit d'un retour au naturel, à un mode de vie spontané et simple. Diogène vivait dehors, dans un dénuement presque total, invectivant régulièrement ses contemporains, dont le philosophe Platon, choquant les bonnes mœurs par des actes provocateurs comme la masturbation publique. Aujourd'hui, les formes les plus raffinées du cynisme sont souvent davantage des postures théoriques que pratiques, bien que certains visages du mouvement punk aient pu aussi revendiquer le sale et l'anticonformisme radical. Dans le cynisme, voire le nihilisme, on condamne l'arbitraire des constructions humaines, qu'il s'agisse de la morale, de la loi, de la société ou du beau. Pourtant, si cette posture cynique peut paraître en soi plus authentique, on peut se demander si l'idée d'un retour au sauvage, au sale ou à la nature n'implique pas toujours à la fois de reconstruire artificiellement ce qu'est la nature, mais surtout de promouvoir in fine l'abandon de toute liberté. En effet, si être authentique signifie qu'il faut se laisser aller au naturel, au spontané, alors on en redevient finalement l'esclave de nos impulsions premières, de la nature et de son flux de détermination. Non seulement nous ignorons où nous positionner pour être naturel ou spontané, mais même si nous le pouvions, en quoi serions-nous encore libres ? Rappelons-le, nous avons posé que l'authenticité signifie d'abord celui ou celle qui se détermine par sa propre autorité, librement, et qui s'exprime en son nom et de manière sincère. Laisser s'exprimer la nature, quoi que ça veuille dire, semble donc plutôt revenir à s'abandonner au flot impétueux d'une puissance aveugle, et donc à abandonner sa maîtrise de soi. Autrement dit, il faudrait distinguer le naturel de l'authentique. L'authenticité doit plutôt se définir comme une attitude morale, comme une fidélité à soi et aux principes, valeurs et opinions et désirs qui sont les nôtres et que nous posons comme étant essentiels. La question de savoir s'ils sont naturels ou non étant finalement assez peu importante. Ainsi, l'authenticité se rapprocherait de l'intégrité morale. Défendre ses valeurs jusqu'au mépris de celles qui nous sont édictées, refuser d'incarner l'attitude conforme si celle-ci contrevient à nos croyances profondes. Le coming out serait à ce titre un cas clinique de l'authenticité. Faire son coming out implique de parvenir à faire plus grand cas de l'expression vraie de soi, de ses désirs et de ses principes, plutôt que des valeurs situées et relatives de sa communauté, qu'elles soient familiales, culturelles, religieuses, ethniques ou politiques. Loin d'être une posture artificielle, une mode ou une tendance anticonformiste, il s'agit là au contraire de s'affirmer et de défendre sa légitimité à exister face aux normes et attentes en vigueur dans une société. Cela implique aussi d'aller contre la censure qu'on a intériorisée et donc contre la résistance qu'on peut soi-même s'opposer. La chanson « Miss It All » de la chanteuse et poétesse lesbienne Jen Hadid, tirée de son album sorti en 2015 « Be Sensational », est à ce titre très intéressante. Le titre « Miss It All », littéralement « tout manqué », fait référence à l'autocensure et au refoulement de l'homosexualité. En écrivant à la deuxième personne, Jen Hadid semble s'y adresser à son fort intérieur. La chanson elle-même se construit en deux parties. Dans la première, le chant est un martèlement, ce fait presque martial. Jen Hadid y répète que le désir la tue, « It's killing you », jusqu'à la rupture où elle annonce simplement « tu es morte ». Dans la deuxième partie, le titre évolue dans un chœur graduel où il est cette fois question d'affirmer « I am here with you »,« je suis avec toi », signifiant par là une renaissance. Cette personne avec laquelle Jen Hadid se trouve pouvant alors être interprétée soit comme l'être aimé, qui l'aide à assumer par la sincérité de leur relation ses désirs et son identité, soit comme cette autre version d'elle-même jusqu'ici refoulée et avec laquelle elle s'est enfin réconciliée. Le fait de choisir l'affirmative « I am here with you » plutôt que la négative en disant par exemple « je suis contre vous », entendre par là « contre la société », montre comment la personne qui prend la courageuse décision de vivre authentiquement le fait dans l'affirmation de ses valeurs et de sa justice, et non par simple opposition. L'authenticité implique en effet de créer de nouvelles normes, son nouveau système de valeurs, et non seulement de nier ou de rejeter les précédents. Là où le nihiliste et le cynique ont tendance à fonctionner surtout en négatif, à détruire par une ironie corrosive les valeurs et les principes en soi, sans proposer de reconstruire, l'authentique ne s'oppose pas pour s'opposer. Il s'oppose s'il le doit, si les contraintes exercées par la société lui semblent contraires à ses idéaux. L'ironie qui accompagne l'authenticité est donc constructive plutôt que corrosive. Elle révèle dans son affirmation de valeur inédite la contingence de notre modèle, c'est-à-dire le fait qu'il pourrait être différent. En tant que tel, elle peut être conçue comme un acte de résistance et de courage. On ne connaît que trop bien les risques d'exclusion et de stigmatisation encourus par les personnes LGBT lorsqu'elles décident de sortir du placard. L'acte d'authenticité ainsi défini demande donc de combiner à la fois une droiture morale et un mépris de l'arbitraire des mœurs et des coutumes dont nous héritons. En d'autres termes, un peu à la manière de David contre Goliath, il s'agit de statuer pour qu'il soit fait justice à la fois à ce que nous sommes, mais aussi aux valeurs en lesquelles nous croyons. Cette révolte fait penser au rite de passage à l'âge adulte que nos sociétés résument très vulgairement sous le nom de crise d'adolescence. Qui dit crise dit critique, c'est-à-dire une remise en question du milieu familial qui est suivie d'un tri, d'un choix, d'une sélection parmi les comportements et croyances de ce milieu. Tout moment de rejet et de négation implique un moment de créativité, de renouveau, de regain, de vitalité. L'adolescent affronte ses parents pour éprouver leur ténacité et la pertinence de leur modèle, pour estimer leur valeur. De la crise naît un individu nouveau, qui a sélectionné parmi les principes du milieu familial ceux qu'il souhaite conserver. Dans son ouvrage Passion du risque, le sociologue David Le Breton analyse l'ensemble des prises de risque, notamment à l'adolescence, qui constituent les nouveaux rites de passage à l'âge adulte dans nos sociétés toujours plus sécurisées et préoccupées par le recul de la mort. Parmi eux se trouve le rituel dit ordalique. Dans son origine médiévale, l'ordalie désigne une épreuve douloureuse ou mortelle qui permettait de déterminer si un suspect était coupable ou innocent. Si l'accusé était innocent, alors Dieu était supposé le sauver de la mise à mort. S'il était coupable, au contraire, il mourait. Aujourd'hui, le rituel ordalique qualifie un comportement à haut risque qui permet au sujet de s'éprouver, de se connaître lui-même, c'est-à-dire de reconnaître ses propres limites et capacités. Cette sorte de suicide métaphorique permet symboliquement au sujet de transférer l'autorité parentale entre ses propres mains, de se faire maître de sa vie et de son destin. En généralisant, c'est donc l'humanité elle-même qui sommeille en chacun, qui désormais décide de se faire maîtresse de son propre destin. Pour parvenir à l'authenticité, l'opposition à son milieu d'origine est donc parfois nécessaire, et ce afin d'affirmer son identité propre, loin du conditionnement familial et des contraintes sociales. Ce saut dans l'inconnu est très bien représenté à la fin du Truman Show de Peter Weir que nous avons déjà cité dans le premier épisode. Truman, en quittant l'émission de sa vie à la fin du film, est une allégorie de l'homme qui accepte le fardeau écrasant du monde sans Dieu. Ce faisant, il fait à sa manière un pied de nez à la philosophie de Leibniz. Au XVIIe siècle, Leibniz établit dans son discours de métaphysique en 1686 que rien dans le monde n'est jamais sans raison qui puisse le rendre nécessaire. Nous aurions pu être une infinité d'autres personnes pour peu que notre trajectoire de vie eût été légèrement différente. La raison suffisante qui explique ce pourquoi nous sommes ainsi plutôt qu'autrement, c'est le principe du monde, Dieu. Dieu aurait choisi de créer ce monde-ci dont nous sommes partie prenante de manière strictement rationnelle. Comme Dieu ne peut faire que le meilleur choix, nous vivons ainsi, selon la célèbre maxime de Leibniz, dans le meilleur des mondes possibles. En d'autres termes, Dieu justifie l'état du monde tel qu'il est. Nous n'aurions pas pu être autrement, car nous sommes comme intégralement pris dans une gigantesque matrice programmée par un logicien, des êtres dont toute l'existence est prévue de toute éternité. Nous serions, pour Leibniz, des monades, c'est-à-dire des individus dont toute l'histoire serait déjà écrite, établie à l'avance. Dieu est en quelque sorte à l'humanité ce que le réalisateur est à Truman dans le Truman Show, et Truman, lorsqu'il refuse que le script de sa vie soit écrit, métaphorise la révolte de l'humanité face au Dieu de Leibniz. De ce fait, il refuse en même temps le confort de la fiction et d'une vie dont les enjeux sont connus à l'avance. Le Truman Show est donc une sorte de rituel ordalique, de saut dans l'inconnu, d'épreuve du feu, mais appliqué à l'échelle de l'humanité. Cette notion de rituel ordalique, de protestation nécessaire pour qu'il y ait transfert d'autorité dans sa vie, illustre à la fois le courage de l'authenticité, mais aussi le risque inhérent qu'encourt celui qui décide d'être authentique. Il arrive heureusement que le monde social puisse céder sous la pression de nombreux individus courageux qui décident envers et contre tout de camper sur leur position. Mais que se passe-t-il lorsque l'individu authentique et intègre trouve face à lui l'exclusion et le refus de l'assimilation réformatrice? Que faire lorsque la société cherche à étouffer notre cri du cœur? Faut-il alors chercher à la fuir, à s'en extirper, comme nous pouvons chercher à fuir notre passé? Que doit-on faire, en somme, lorsque nous ne pouvons plus prendre le masque? Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à ces figures tragiques qui, pour rester authentiques et intègres, entrent en conflit avec leur société, jusqu'à la mort et la capitulation, ou alors choisissent de la quitter et de faire table rase. Tout comme certains scientifiques font l'hypothèse d'une matière invisible pour les observateurs dans l'univers appelée la matière noire, il existe dans nos sociétés des éléments perturbateurs, invisibles et inassimilables, ceux qui s'y trouvent sans y être, qui y sont irréductibles. Vous écoutez Ben, et dans ce deuxième épisode, nous allons parler du coût de l'authenticité. Le philosophe et sociologue allemand du XXe siècle, Georg Simmel, met au centre de sa pensée le conflit entre deux tendances psychologiques qu'il observe chez l'homme. Le besoin d'imitation, d'une part, et celui de différenciation, d'autre part. Le besoin d'imitation, qu'on pourrait appeler notre pulsion estiaïque, de la déesse grecque Estia, est à rapprocher de notre besoin d'intégration et de communauté. Au contraire, celui de différenciation, notre pulsion hermésienne, du dieu grec Hermès, est à rapprocher de notre besoin de mobilité, de liberté et de singularité. Dans la mythologie grecque, on met en effet parfois dos à dos Estia et Hermès. La première est la déesse du foyer, de la maison, de la sédentarité. Le second est le dieu de la mobilité, du voyage et du nomadisme, et du commerce. Les deux forment en somme une dialectique fondamentale de la vie humaine, qui oscillerait entre le même et l'autre, le chez-soi et l'ailleurs, le sédentaire et le nomade, la frontière et la transgression. Nous avons à la fois besoin de nous sentir intégrés tout en ayant la capacité de nous démarquer en tant qu'individu, comme dans la famille où tous les membres partagent un même air tout en se différenciant. Dans sa philosophie de la mode, Simmel montre ainsi comment la mode joue sur les deux tableaux. Elle est à la fois un facteur d'intégration et de cohésion au sein d'un groupe, et de distinction vis-à-vis des autres groupes. En portant des Rolex, malgré le mauvais goût qui caractérise une telle démarche, vous vous démarquez des pauvres qui achètent des Swatchs, tout en vous intégrant au groupe des nouveaux riches. Le choix de l'authenticité implique de faire fi à la fois du besoin de s'intégrer et de celui de se différencier, au profit d'une sincérité profonde. Conséquemment, l'authenticité comme intégrité, fidélité à ses valeurs peut parfois mener à une différenciation extrême vis-à-vis de sa société et donc au tragique de l'exclusion, du suicide ou de la mise à mort. Dans ses cours d'esthétique, donnés entre 1818 et 1829, le philosophe allemand Hegel explique que les protagonistes principaux dans les tragédies ont pour caractéristique d'être à la fois d'une vertu sans faille, car parfaitement intègre et inflexible dans la défense de leurs valeurs, et en même temps complètement passionnels et démesurés, parce qu'ils en viennent à être prêts à tout pour faire respecter leur justice. Nous connaissons tous ces gens qui, épris d'un fort besoin de justice, peuvent en venir à affronter leurs proches pour la défendre. Antigone est à ce titre un personnage exemplaire, la championne parmi ces féministes qui casseraient l'ambiance en soirée. La légende d'Antigone, dont la version tragique la plus influente est celle du dramaturge grec Sophocle, vient clore le destin d'Œdipe et de sa lignée maudite. Rappelons rapidement les enjeux. Les deux fils d'Œdipe et frères d'Antigone, Étéocle et Polynice, se déchirent autour de la succession du trône de Thèbes jusqu'à s'entretuer. Créon, l'oncle d'Antigone qui prend le pouvoir à la mort des deux frères, considère Polynice comme un traître et décide donc de ne pas lui offrir de sépulture. Antigone, qui estime qu'il est injuste de n'enterrer qu'Étéocle, désobéit à Créon et à la loi de sa patrie en s'engageant à faire respecter la loi des dieux, qui condamne le fait de ne pas honorer les morts. Créon menace alors Antigone d'être enterrée vivante si elle essaie de faire enterrer Polynice, celle-ci campe sur sa position et est donc condamnée à mort. Créon se rétracte ensuite en cédant à Antigone le droit d'enterrer son frère, mais trop tard. Antigone s'est déjà pendue ainsi que son fiancé. Autant vous dire que ça avait plus de gueule que nos disputes familiales autour du langage inclusif. Cette tragédie illustre le courage et la vertu d'Antigone, qui ne recule devant rien, même pas la mort, pour faire respecter la loi des dieux en laquelle elle croit. Son oncle Créon, à l'inverse, est à la fois un tyran et un lâche, puisqu'il a connaissance de la loi divine, mais refuse par orgueil de céder devant une femme. La figure d'Antigone est un parangon d'intégrité et d'authenticité. Refusant de se conformer aux caprices du pouvoir, elle se montre inflexible dans la défense de sa justice. Son sacrifice est même moteur puisqu'il conduit à la chute de Créon. Ainsi, son authenticité fait-elle avancer le cours de l'histoire. Dans son ouvrage « La phénoménologie de l'esprit », Hegel pose que toute contradiction, loin de stopper le développement de l'esprit et de l'histoire, est au contraire son moteur premier de dépassement et de progression, à l'image de la chenille qui se fait chrysalide pour mieux devenir papillon. Dans le chapitre 6 de son ouvrage, Hegel interprète ainsi la figure d'Antigone comme motrice, puisqu'elle montre à Créon et à la cité leurs contradictions. Alors que ce dernier prétend fonder sa loi sur sa seule autorité, Antigone est la figure ironique qui fait tomber son masque et révèle qu'en ignorant le droit absolu d'honorer les morts, Créon devient tyrannique. En défendant le vrai droit, Antigone dénonce donc l'hypocrisie du gouvernement de son oncle et permet à l'histoire de progresser. Les personnes authentiques, parce qu'elles suscitent l'émoi et l'admiration de par leur sincérité et leur courage, ont une grande influence sur leurs contemporains et peuvent initier de grands mouvements sociaux. Les exemples en sont nombreux, de Martin Luther King à Rosa Parks. Cela s'explique par le fait que les personnes authentiques n'adoptent pas un discours ou une attitude parce qu'ils plaisent, comme les démagogues, mais parce qu'elles sont convaincues de leur valeur et de leur vérité. Dans le Gorgias, célèbre dialogue de maturité de Platon, Socrate dénonce les rhéteurs et les sophistes qui manipulent les foules pour leur faire croire quelque chose auquel eux-mêmes n'adhèrent pas forcément. Platon considère ainsi que la rhétorique, l'art de discourir, n'est pas un art au même titre que la médecine, car elle n'est pas une pratique fondée sur une vérité ou un savoir, mais seulement un savoir-faire qui vise à procurer du plaisir ou de la crainte. En ce sens, le système démocratique lui-même, en étant fondé sur le principe de séduction électorale, est biaisé dès son départ. Comme les politiciens ont tout intérêt à user de stratégies pour manipuler leur électorat, ils ne peuvent toujours, par définition, dire ce qu'ils jugent être la vérité. La démocratie mènerait, en somme, toujours à l'hypocrisie. Il en vient même à ce principe dans son dialogue « La République », à savoir que seuls ceux qui ne se soucient pas de plaire, d'obtenir les suffrages et donc, in fine, du pouvoir, peuvent véritablement gouverner. Tel est le paradoxe des philosophes rois. Le sage est celui qui n'a cure du pouvoir car il n'a souci que de la vérité et non de l'opinion des autres, mais c'est donc bien celui qui est véritablement légitime à gouverner. Pourtant, Platon défend dans le même temps l'idée que la plupart des foules sont ignorantes. Aussi le sage peut et doit mentir afin de conserver son pouvoir. Son mensonge est dit dans le livre 3 de la République, pieux ou noble, en ce qu'il permet aux individus irrationnels d'adhérer à la formation du gouvernement en leur faisant croire qu'il est naturel et légitime. Ce mensonge n'est pas vu comme une séduction pour Platon, mais comme une forme de manipulation tout à fait légitime. Aujourd'hui toutefois, les électeurs et électrices que nous sommes ont développé une hypersensibilité à la manipulation et nous sommes enclins immédiatement à la dénoncer. Les politiques ont pour métier de nous séduire, mais nous votons en général pour celles et ceux qui prétendent justement ne pas chercher à nous séduire, c'est-à-dire qui se donnent comme étant authentiques. Dans un monde où tout nous semble faux, il faut être vrai pour obtenir la ferveur populaire. Au point où c'en est devenu une stratégie électorale consciente, si l'on pense par exemple à l'extrême droite qui prétend toujours d'une manière ou d'une autre dire tout haut ce que tout le monde penserait tout bas. Évidemment, ce n'est pas parce qu'une personne est authentique qu'elle a toujours raison, elle peut se tromper. En revanche, par définition, elle dira toujours ce qu'elle pense être vrai. Et dans un monde où l'on ne sait plus très bien qui ou que croire, c'est bien ceux qui ont encore l'air de croire en quelque chose qui l'emportent. En un sens, nous chercherions tous à élire des individus incorruptibles et qui ne mentent jamais, probes, intègres, toujours fidèles à eux-mêmes, qui ne voudraient pas le pouvoir pour le pouvoir et qui nous diraient les choses que nous ne voulons pas entendre, et ce parce qu'ils auraient le seul souci du vrai. Comment peut-on alors démasquer les figures réellement authentiques des faux-semblants de l'authenticité ? La saga Hunger Games, écrite par Suzanne Collins et adaptée au cinéma par Gary Ross puis Francis Lawrence, livre une réflexion particulièrement pertinente sur l'attraction populaire exercée par l'authenticité. L'héroïne de la série, Katniss Everdeen, est une figure tragique moderne souvent comparée à Spartacus, le gladiateur qui mena la révolte des esclaves contre Rome entre -73 et -71. Commençons par rappeler les linéaments de l'histoire des Hunger Games. Si vous ne les avez pas lus ni vus jusqu'à la fin, la suite de cet épisode contient de nombreux spoilers. L'histoire des Hunger Games se déroule dans un monde futuriste et dystopique, une version méconnaissable des États-Unis, Panem, où 12 districts sont réduits en esclavage par le cœur de la puissance du pays, le Capitole, dirigé par le président Snow, un homme froid, cruel et manipulateur. Depuis 74 ans, c'est-à-dire depuis l'échec du soulèvement des districts contre le Capitole, qui avait abouti à la destruction du district 13, des jeux de la faim sont organisés. Ces jeux sont des combats de gladiateurs modernes, une compétition télévisée où deux adolescents de chaque district, un garçon et une fille qu'on appelle les tribus, sont choisis pour aller s'entretuer dans une arène jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Nous passons sur le fait que nous avons tous collectivement un gros problème à vouloir regarder des adolescents souffrir pendant 2h30 dans des salles combles. Entre Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games, Labyrinthe et Jumanji, il est grand temps que la société fasse quelque chose pour sa haine immodérée de cette catégorie de la population. Katniss Everdeen est la sœur aînée d'une famille de 2 enfants et âgée de 16 ans au début du récit. Sa sœur, Primrose, que Katniss chérit plus que tout, a 12 ans, ce qui signifie qu'elle peut désormais être désignée pour participer au jeu lors de la moisson. Gros manque de bol, et c'est le cas de le dire, son nom n'avait été déposé qu'une seule fois dans le saladier, et c'est quand même elle qui est désignée comme tribu. Ce qui est ironique pour une jeune fille nommée Primrose, Prime Vert en français, puisque ses fleurs printanières sont censées être vivaces. Katniss, en Antigone des temps modernes, cherche à tout prix à protéger sa sœur, et se désigne ainsi à sa place comme tribu. Elle est désignée avec Pita, un garçon secrètement amoureux d'elle et dont le seul super pouvoir est visiblement de savoir faire du pain. Katniss sait, elle, tirer à l'arc et chasser, ce qui lui conférera un avantage certain. Tout au long des jeux, Katniss adopte un comportement inhabituel pour une concurrente. D'abord en protégeant Roo, une tribu de 12 ans du district 11, puis en lui improvisant une sépulture afin de lui rendre hommage lorsque celle-ci décède, alors que cela peut contribuer à l'exposer et à la rendre vulnérable. On notera encore une fois le parallèle à faire avec Antigone, dans la volonté de faire une sépulture à un cadavre que les organisateurs des jeux, à l'instar de Créon, considèrent avec dédain. Enfin, Katniss remportera la victoire avec Pita, en menaçant de se suicider avec lui plutôt que de donner aux organisateurs la satisfaction de n'avoir qu'un seul gagnant. Dans la suite du récit, Katniss doit repartir au jeu lors de leur 75e édition, édition qui verra naître un nouveau soulèvement dans les districts après que Katniss, aidée par un certain nombre d'alliés infiltrés, brise le champ de force de leur arène, mettant fin ainsi à la diffusion des jeux. Le 3e épisode retrace enfin l'organisation et la poursuite de la rébellion, Katniss, surnommée le Gémoqueur, étant son fer de lance et son icône. Les rebelles, menés par la présidente Coyne, se servent en effet de l'image favorable de Katniss auprès des districts pour tourner des clips de propagande afin d'unifier la population contre le Capitole. Progressivement, Katniss se rend toutefois compte des intentions impures de la présidente Coyne qui instrumentalise la révolution afin de s'emparer du pouvoir. Lorsque Coyne lance une dernière attaque décisive contre le Capitole, elle tue indifféremment des civils du Capitole et des districts, dont la sœur de Katniss, Primrose. Folle de chagrin, trahie et se rendant bien compte de la morale machiavélique de Coyne, pour qui la fin justifie les moyens, Katniss, lorsqu'elle est désignée pour exécuter le président Snow, tue la présidente Coyne à la place, libérant ainsi Panem du joug de tous ses tyrans potentiels. Dès le premier épisode, la saga se présente donc comme une satire de la société du spectacle, où tout, y compris la mort, peut être représenté et peut devenir objet de divertissement. On a souvent rapproché Hunger Games de la locution latine du poète satirique Juvénal, Panem et Circenses, du pain et des jeux. Et la série insiste effectivement sur la façon dont les jeux peuvent provoquer une progressive anesthésie de la population, la rendant complètement inactive et passive sur le plan politique, incapable de s'insurger de son immoralité et de ses inégalités. À certains égards, les districts illustrent même le dicton « divide et impera », divisé pour mieux régner, car certains, plus privilégiés que d'autres comme les districts 1 et 2, prennent particulièrement plaisir à écraser les autres lors des jeux et à susciter leur jalousie. Cette interprétation de l'anesthésie générale est tentante, et pourtant elle minore un certain nombre de personnages issus du Capitole, ainsi que la majeure partie des membres des districts qui se rendent parfaitement compte de l'insanité des jeux et voudraient s'y opposer. En réalité, ce n'est pas tant une satire de la société du spectacle elle-même et de ses effets aliénants, qu'un éloge continu de la vertu d'authenticité incarnée par Katniss. Katniss est en effet peut-être le seul personnage, avec sa sœur Primrose et Peeta, à agir selon son cœur et à se refuser au jeu de la représentation et du spectacle qui est imposé par les jeux. Dans le premier opus, Katniss n'hésite pas quand elle doit sauver sa sœur des jeux. Elle choisit de rendre hommage à Roux au mépris des attendus de divertissement, et elle est prête à se sacrifier pour ne pas donner satisfaction au public des jeux et ne plus se donner en spectacle. Dans le second opus, les deux vainqueurs Katniss et Peeta doivent faire une tournée dans tous les districts pour rendre hommage aux vaincus. Alors que le Capitole leur a préparé des discours impersonnels, Katniss ne peut finalement pas les suivre quand vient le moment de rendre hommage à Roux. Dans les deux premiers opus, elle ne se présente pas du tout comme une rebelle, ses motivations se tournant exclusivement vers la protection de ses proches qu'elle chérit de tout son cœur et vers sa propre survie. À l'image d'Antigone, dont les motivations paraissent au premier chef restreintes au cercle familial, elle cherche avant tout à faire droit à l'amour qu'elle ressent pour son entourage. Et c'est précisément cette motivation qui en fait paradoxalement une force fédératrice que le président Snow ne sous-estime pas. Lorsqu'elle rend hommage à Roux dans l'arène, elle provoque un soulèvement dans le district 11. Et lorsqu'elle fait un discours en son honneur lors de la tournée des districts, la révolte se répète. La capacité de Katniss à embraser les foules, elle fut nommée la fille du feu, en fait un élément perturbateur. Ce n'est pas tant qu'elle n'essaie pas de jouer le jeu, au contraire elle essaie souvent de toutes ses forces de suivre à la lettre les instructions qui lui sont données, mais Katniss, comme ce sera montré dans le troisième opus, est une actrice abominable ainsi qu'une très mauvaise menteuse. C'est cette authenticité, cette transparence qui en fait un personnage si important aux yeux de la population. Et ironiquement, c'est même ce que les habitants du Capitole apprécient chez elle dans les jeux avant la rébellion. Elle est incapable de se dissimuler et donc de faire entorse à ses valeurs. Dans le dernier épisode du récit, Katniss est instrumentalisée par le rebelle afin de servir d'icône à la rébellion et de la galvaniser. Les rebelles sont vite obligés d'exploiter l'image de Katniss directement sur le terrain, c'est-à-dire lorsque confrontée à des situations réelles, celle-ci peut réagir avec authenticité et sincérité, à chaud.
Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you?
L'un de ces clips, particulièrement percutant, est une vidéo de Katniss interprétant la chanson L'arbre du pendu. Certains critiques du film ont pu dire que la voix de Jennifer Lawrence était peu mélodieuse lorsqu'elle interprète le morceau. Pourtant, c'est sans doute justement cette fragilité vocale qui rend le mieux la sincérité du chant. Dans son esthétique, Hegel défend une conception expressive de la musique, selon laquelle celle-ci doit rendre dans le sensible les mouvements de l'âme. De ce fait, il valorise la musique vocale, le chant, plutôt que la musique instrumentale, car le chant a l'avantage de s'adresser de manière immédiate et intuitive à la sensibilité humaine, là où l'instrument est un médium étranger, qui demande un apprentissage et une codification. Même Lara Fabian défendra des siècles plus tard la même conception expressive dans une interview, insistant sur le fait que la voix suffit à rendre une émotion sans même comprendre le sens des paroles, faisant ainsi de Lara Fabian une hegélienne qui s'ignore. Si on peut contester le caractère unilatéral de cette idée, elle s'applique toutefois très bien au chant de Katniss, d'autant plus percutant qu'il se passe d'instrumentation. C'est cette transparence entre l'âme et ses moyens d'expression qui rend Katniss si digne de confiance aux yeux des districts. Dans un monde où tout est spectacle, l'expression sincère devient un rempart. Cette transparence et intégrité totale, cet absolu refus de la représentation, en font un guide spirituel en toute situation pour le peuple de Panem, même lorsque celui-ci se laisse aveugler. La scène la plus intéressante de la série à ce titre est bien celle où Katniss choisit de tuer Coin plutôt que d'exécuter Snow. La consigne que lui donne Coin à ce moment-là, avant l'exécution, est de tirer une flèche qui soit aussi précise que son cœur est pur. Et elle tue ainsi, ironiquement, Coin elle-même, démasquant une femme qui peut devenir un potentiel tyran pour avoir tué une innocente comme sa sœur dans le seul but de gagner la guerre. Elle accomplit ainsi exactement son rôle de « jet moqueur ». Dans la culture symbolique, l'oiseau moqueur, dont est inspiré l'oiseau fictif « jet moqueur », est l'oiseau des poètes et des mots. Donc d'abord un oiseau qui viserait à nous divertir grâce à son chant. Mais plus profondément, c'est un oiseau vigilant, attentif, prophétique, qui a la capacité de percevoir la vérité. Le fait même qu'il soit moqueur insiste aussi sur l'ironie. Le jet moqueur désigne ceux qui ne sont pas fidèles à leurs propres principes par l'usage de l'ironie. Ainsi, Coin est à double face comme une pièce. Elle prétend se battre pour des idéaux de paix et de démocratie, mais désire en réalité le pouvoir. De même, le peuple croit vouloir se libérer en exécutant Snow, mais est aveuglé par son seul désir de vengeance. En un sens, Katniss, en abattant Coin, dénonce les hypocrites de toute révolution qui ne cherchent qu'à profiter du chaos pour s'emparer du pouvoir, mais du même coup elle remet en question l'aveuglement lié à la seule satisfaction de la mort de Snow, qui est contraire au fait de bâtir une nouvelle société juste, dépassionnée, et qui méprisera des spectacles cruels comme les Hunger Games. On peut dire que Katniss est une figure anti-machiavélienne, contre Machiavel. Dans Le Prince, le philosophe Nicolas Machiavel, diplomate florentin du XVIe siècle, défend une version réaliste de la politique selon laquelle le prince doit toujours agir en fonction des aléas de la fortune, et ce pour faire perdurer son gouvernement par tous les moyens. Machiavel en vient ainsi à présenter une version de la vertu politique où le prince qui en est doté est avant tout un acteur, qui sait adopter la posture nécessaire à la conservation du pouvoir, comme dans un théâtre. Le prince lui-même est donc un personnage sans substance, le visage qu'il montre dépendant des circonstances dans lesquelles il doit régner. Il est virtuose, c'est-à-dire qu'il sait aussi bien faire, selon le fameux mot de Machiavel, l'homme que la bête, gouverné par les lois ou par l'arbitraire de la force et de la ruse. L'idée est donc que la politique devient une scène, une représentation permanente, un jeu de dupes et de séducteurs. Plus tard, le philosophe Walter Benjamin, dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, dont nous avons déjà parlé dans le premier épisode, insistera sur l'idée que le fascisme est une esthétisation de la politique, signifiant par là que le fascisme vide totalement de sa substance réelle la politique, jusqu'à faire de la domination de l'homme sur l'homme un simple spectacle. En un sens, autant le Capitole que les rebelles ont transformé l'homme en spectacle. Le Capitole en organisant les Hunger Games, et les rebelles en faisant de la guerre des images de propagande. Coin, en cherchant à obtenir le pouvoir par tous les moyens, y compris le massacre d'innocents, en transformant la guerre en spectacle, ne vaut pas mieux que Snow, et s'inscrit même dans sa droite lignée. Le geste de Katniss est donc celui qui consiste à pointer du doigt l'authenticité nécessaire à toute parole politique, et les hypocrites qui s'y dérobent, ce qui en fait la véritable protectrice de Panem et, à l'instar d'Antigone, l'une des plus belles héroïnes de la culture contemporaine. L'appétit certain que nous pouvons avoir pour ce type de fiction révèle que nous avons effectivement un penchant prononcé et intarissable pour l'authenticité. Celle-ci exerce sur nous une profonde fascination, et nous tendons à aimer des personnages qui sont à la fois intègres, profonds, qui ont leur franc-parler et leur épaisseur. Notre goût pour les fictions dystopiques ou post-apocalyptiques n'est pas non plus un hasard. En mettant à bas la société telle que nous la connaissons, elle présente un terrain d'expérimentation et de fantasme où nous pouvons imaginer réinventer les relations sociales loin des conditionnements et des automatismes qu'elles connaissent aujourd'hui. S'imaginer dans un groupe de résistants dans une apocalypse zombie n'est pas qu'effrayant, c'est également excitant, dans la mesure où cette situation viendrait nous libérer de l'aliénation et des contraintes exercées sur nous par la société qui nous empêcherait encore et toujours d'être véritablement nous-mêmes. En un sens donc, l'authenticité se joue dans nos fantasmes parfois plus que dans l'expérience réelle. Ce que peut révéler notre goût pour l'authentique, ce n'est pas tant que notre société serait plus fake qu'une autre ou plus fake qu'avant, mais c'est une peur. La peur de douter de nous-mêmes, de qui nous sommes. Un certain nombre d'entre nous rêvent sans doute, dans le fond, de n'avoir aucun effort à faire pour incarner leurs valeurs, de ne jamais avoir à se remettre en question, de ne pas se retrouver, en somme, dans la position délicate où ils ne savent pas comment se comporter, comment être. L'authenticité, c'est un fantasme d'assurance, celui de ne jamais vaciller, jamais douter de qui nous sommes profondément, jamais douter de nos valeurs et de nos prises de position. Lorsque nous voyons des personnages qui sont fermes et décidés comme Katniss, nous pouvons envier leur résolution, leur courage, mais surtout leur certitude quant à leur identité et à leurs décisions. Nous pouvons être admiratifs de leur solidité, car la majorité du temps, nous sommes justement pétris de doutes quant à notre propre identité et à nos propres choix moraux, qui sont toujours incertains, bricolés à chaque instant, et donc toujours potentiellement fragiles. L'authenticité nous rassure, car en nous faisant croire à une essence, à un être réel que nous serions profondément, elle nous protège de la souffrance d'avoir à nous confronter à nous-mêmes pour changer, pour devenir autre. C'est pour cela que l'authenticité peut nous servir d'excuse. Dès que nous agissons mal, dès que nous sommes faillibles, dès que la nécessité de changer pointe le bout de son nez, nous la balayons d'un revers de main en répondant « Au moins, je ne mens pas. Au moins, je suis vrai. Au moins, je suis authentique. » Au moins, je suis fidèle à moi-même. Or, le changement dans nos vies est incessant. Nous avons toujours à nous adapter. En conséquence, nous avons toujours à nous réinventer. Et quand nous changeons, nous sommes vulnérables. Car désormais incertains quant à qui nous sommes, précaires vis-à-vis de ce qui nous a toujours semblé aller de soi. Lorsque nous cherchons à changer, nous adoptons des attitudes qui, au début, nous semblent justement « fake ». Par exemple, un homme qui fait l'effort de devenir plus affectueux et doux avec son entourage peut avoir l'impression d'être un hypocrite ou de se forcer. Aujourd'hui, les changements d'orientation professionnelle sont légion et beaucoup plus normalisés. Et de même, une angoisse profonde peut s'emparer de ceux qui quittent leur taf, leur job habituel, celui qu'ils ont toujours fait et cru vouloir faire toute leur vie, car il faut non seulement faire le deuil de qui nous avons cru être, mais encore accepter que ce que nous allons faire désormais nous amènera à changer de peau, à prendre un costume qui au début sera trop grand pour nous, jusqu'à ce qu'on prenne le pli. Il y a quantité de moments transitoires dans nos vies où nous jouons à, où nous devons faire un peu semblant pour nous adapter, où nous ne sommes pas exactement là où nous pensions devoir être. Peut-être avons-nous trop tendance à croire que ces transitions ne sont pas aussi importantes pour nous qualifier que les moments de pleine certitude où nous avons le vent en poupe. Les jeunes enseignants, par exemple, sont constamment en représentation mais dans une représentation précaire, parce qu'ils peuvent avoir l'impression de jouer à être prof plutôt que d'être prof. Mais comme le souligne avec intelligence le personnage de Naila Salah dans le long métrage Le Brio d'Ivan Attal, si l'habit ne fait pas le moine, alors comment devient-on moine? Comment pouvons-nous nous surprendre à être différents si nous ne prenons pas d'autres habits? Comment pourrions-nous prendre un nouveau pli si nous ne cherchons pas à le forger? Comment espérer devenir prof en somme sans jouer à être prof au moins au début? Dans son dernier ouvrage « Être à sa place », la philosophe Claire Marin explique que la place que nous prenons dans la société est finalement toujours incertaine. À chaque instant, nous la débordons parce que nous sommes libres de la quitter et d'en prendre une autre. Les places qui nous semblent adéquates un temps, la vie nous les ravira ou nous forcera à les questionner pour en occuper d'autres. C'est pourquoi, plutôt que de parler d'authenticité, il faudrait plutôt prendre conscience de notre grande plasticité. Assumer en somme le jeu, le bricolage, la construction. Assumer que nous sommes en chantier. En permanence. Faut-il donc abandonner la quête d'authenticité? Pour moins se prendre au sérieux et regoûter à une forme d'ironie et d'autodérision vis-à-vis de nous-mêmes, sans doute. Parce que nous sommes assez souvent en représentation, parce que nous essayons d'incarner de nouvelles postures sans parfois y arriver, L'issue est peut-être effectivement d'en rire, de garder une distance réflexive vis-à-vis de ça, de toujours se savoir un tout petit peu inadéquat. Peut-être devrions-nous embrasser définitivement le jeu de la représentation. Peut-être est-il temps définitivement de s'assumer mouvant, fluctuant, toujours un peu fake, mais courageux. Courageux dans le fait de croire à notre propre changement et à notre propre capacité d'amélioration. Dans notre prochain et dernier épisode sur la question de l'authenticité, intitulé « Nos identités bricolées », nous explorerons les possibilités ouvertes par une ère de la post-authenticité, qu'on appelle parfois aujourd'hui en philosophie « postmodernité ». Si l'émission vous a plu, vous pouvez suivre sa page Instagram @lesvanupieds et la repartager via l'enregistrement mis en ligne sur le site de Radio Bartas. C'était Ben pour Les Vanupieds et je vous salue.
C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Vanupieds, tout est vanupieds.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Bartas.
Tout est vanupieds.